Deutsche Welle, Magazine Environnement.
Les agriculteurs sur place nous disent, lorsqu'ils sèment le maïs traité sur un quart de leur terre, ils récoltent beaucoup plus que sur l'ensemble de leur surface. Cela montre aux agriculteurs que c'est vraiment une solution.
Une nouvelle variété de maïs pour éviter que des cultures soient détruites par des plantes parasites, c'est ce que tente de mettre en place une firme allemande. De son côté, à Cotonou au Bénin, l'IITA, un institut de recherche agricole, cherche à promouvoir la lutte biologique contre les ravageurs.
Un produit traité à l'huile de Nîmes, vous pouvez le consommer pratiquement tout de suite. Alors que si vous consommez un produit agricole qui a été traité avec les pesticides de synthèse, vous êtes obligé de respecter un délai de consommation de au moins de 7 à 10 jours. Ça dépend du produit. C'est un pesticide bio. C'est utilisé dans l'agriculture biologique. Donc c'est homologué en tant que pesticide dans l'agriculture biologique.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ces deux sujets sont au menu de notre magazine. Les produits phytosanitaires sont encore peu utilisés en Afrique, mais cela pourrait vite changer. Pour éviter que des pans entiers de récolte soient détruits par des parasites, une firme allemande tente de mettre au point une nouvelle variété de maïs. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Au Ghana, là où les graines ont été testées, les rendements doublent. Un reportage de Peter Hiller présenté par Laure Valois.
2 kilos de graines de maïs viennent d'être englouties par la machine. En quelques secondes, les grains jaunes ressortent teintés d'un rouge éclatant. S'ils ont désormais cette couleur, c'est parce que la machine vient d'y appliquer l'herbicide Strigaway. Nous sommes dans le laboratoire du groupe chimique BASF dans le sud de l'Allemagne. Ulf Schlotterbeck est satisfait des premiers tests, mais il veut encore perfectionner la technique de teinture. Car si l'herbicide en venait à se décoller de la graine, le maïs, en poussant, pourrait rapidement être attaqué par la striga. C'est ce qu'explique le chercheur allemand.
Les racines de la plante striga s'attaquent directement aux racines du maïs. Cela veut dire que le striga pompe les substances nutritives et l'énergie de la plante. Le striga ne se contente donc pas seulement de prendre la place ou l'eau de la plante de maïs, mais elle la contamine directement.
Lorsqu'elle fleurit, la striga ressemble presque à une rose. Mais les apparences sont trompeuses, car cette plante parasite, qu'on appelle aussi herbe de sorcière, peut détruire des cycles entiers de récolte, en particulier en Afrique de l'Est où elle est très répandue. Les ressources alimentaires de millions de personnes sont donc menacées. Des grains résistants au striga pourraient donc apporter une solution durable à ce problème. Ils sont d'ailleurs déjà testés à 6000 km du laboratoire allemand, au Kenya. Sami Waringi y travaille comme manager de projet.
Les agriculteurs sur place nous disent, lorsqu'ils sèment le maïs traité sur un quart de leur terre, ils récoltent beaucoup plus que sur l'ensemble de leur surface. Cela montre aux agriculteurs que c'est vraiment une solution.
Les rendements pourraient effectivement doubler grâce à ces nouvelles semences, de quoi assurer aux agriculteurs de meilleurs revenus. Mais cela n'est pas sans risque. Les petits exploitants pourraient devenir dépendants des grandes firmes, comme le groupe BASF. Par ailleurs, l'herbicide utilisé contre la striga est toxique.
On conseille aux agriculteurs de se laver les mains, de porter des gants lorsqu'ils sont en contact avec les produits chimiques. Ces produits pourraient effectivement endommager les autres semences stockées dans les hangars. C'est ce qui inquiète un peu les agriculteurs.
Mais Sami Waringi compte bien dissiper cette crainte rapidement. Il retient surtout les apports positifs des nouvelles graines qui pourraient bientôt être semées dans d'autres pays africains, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi et au Ghana.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Les produits phytosanitaires sont avec les engrais les deux principales sources de pollution des eaux dans les milieux agricoles. Il faut le savoir, l'utilisation des produits phytosanitaires peut présenter des risques qu'il faut gérer. C'est pourquoi les écologistes préconisent la lutte biologique contre les plantes parasites et les ravageurs. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle au Bénin l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale. En attendant d'avoir l'un des chercheurs de ce centre, je vous propose de faire un tour au Togo voisin avec l'artiste King Minson. Les pesticides constituent un véritable problème de santé publique. Le sujet interpelle à la fois le grand public, les spécialistes du monde agricole et le corps médical. Ces produits chimiques sont des polluants organiques qui perdurent dans l'environnement. Ils s'accumulent et sont d'une manière générale dangereux pour l'être humain. L'une des solutions proposées, qui n'est pas une nouveauté, est la lutte biologique. Au Bénin, par exemple, les feuilles de nîmes sont utilisées par certains paysans pour lutter contre les ravageurs. Pour se rendre compte de l'efficacité de cette méthode, nous nous sommes rendus à l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale à Cotonou, où travaille Manuel Tamo sur le sujet.
Ça, c'est une très bonne chose qu'ils font. Effectivement, parce que nous-mêmes, on a expérimenté avec l'huile de nîmes et on continue à associer l'huile de nîmes dans tout ce qu'on fait. Parce que l'huile de nîmes peut tuer pratiquement presque tous les insectes que vous avez vu les chasser ou les tuer, mais ne tue pas les parasitoïdes. Donc vous tuez par exemple les chenilles de Marouka, vous tuez les pucerons, mais s'il y a un parasitoïde qui vient piquer le puceron, il va pas mourir.
Et l'huile de nîmes, comment on le prépare?
Bon, l'huile de nîmes, il faut cueillir les fruits de nîmes, vous connaissez ça, les fruits de nîmes qui sont déjà assez mûrs, donc couleur jaune. Vous les cueillez ça, il faut les enlever la pulpe, il faut les faire sécher, et après il faut les presser. Alors il faut une presse à huile. Ça c'est, mais il y a des presses à huile disons de façon traditionnelle. Et il y a nous on travaille avec deux ONG ici au Bénin, une ONG qui est à Porto Novo qui produit de l'huile de nîmes médicale, mais qui est exactement les mêmes choses propriétés contre les insectes. Et il y a un autre groupement dans les collines, maintenant j'ai oublié le nom. Et aussi, ils essayent même de faire cette production d'huile de nîmes à échelle semi-industrielle. Parce que l'huile de nîmes a regagné beaucoup d'intérêt quand on a commencé à lancer le coton biologique au Bénin, grâce aux efforts de l'ONG OBEPAB. Hein. Et donc, ça a créé une demande de huile de nîmes. Et donc, surtout les femmes ont vu qu'avec la production de l'huile de nîmes, on peut gagner de l'argent.
Et ça, le nîmes, c'est quoi juste le nîmes?
Le nîmes, c'est un arbre. Il y en a partout. C'est un arbre, ça s'appelle Azadirachta indica. Vous en trouvez partout. C'est presque devenu une plante envahissante. Mais c'est ce qui donne l'ombrage dans les villages. Donc, c'est une plante très bénéfique. Mais oui, il y en a vraiment partout.
Une plante embarrassante qui peut débarrasser les paysans de ces insectes nuisibles.
Exactement. Donc, et comme je dis, l'huile de nîmes est très compatible avec la lutte biologique. Et on a même vu que si on fait des associations, tel que le virus, ça donne un effet synergique. Donc, ça veut dire que la somme, disons, l'effet final, c'est plus que la somme des deux effets.
Oui, et chaque chose a ses limites. Est-ce que cela n'a pas de conséquences sur les utilisateurs ou bien le paysan qui l'utilise? Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur sa santé?
Ouais, c'est une très bonne question. Et effectivement, si vous comparez, par exemple, l'utilisation de nîmes, de l'huile de nîmes ou des produits entomopathogéniques, vous voyez très bien qu'il y a une différence énorme. Alors, tout d'abord, ces produits ont été testés déjà. On a été testé leur toxicité sur l'environnement, sur les organismes non cibles et surtout sur la santé humaine et la santé des animaux. Ça, c'est très important. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien testé avant qu'on puisse mettre quelque chose sur le marché.
Ce qui veut dire que si les animaux mangent les feuilles de nîmes,
ils vont pas mourir. Ça a été même publié parce que aux États-Unis, on utilise l'huile de nîmes, c'est commercialisé en tant dans les cultures biologiques. Donc, ça a passé tous les tests de très rigoureux hein, qui ont fait aux États-Unis. Je suis sûr que je vais vous donner la fiche technique pour le nîmes. Il y a d'abord l'Agence pour la protection de l'environnement qui doit donner son tampon. Et ensuite, il y a le Food and Drug Administration qui doit aussi donner son tampon pour ça. Donc, ça doit passer vraiment des tests très stricts. Nous, on n'a pas fait des tests ici parce que le nîmes, c'est le même nîmes qu'on a un peu partout. Et aux États-Unis, il n'y a pas de nîmes. Le nîmes des États-Unis, ça vient de l'Inde ou bien ça vient de l'Afrique ou des pays tropicaux, en fait. Si le paysan traite avec le nîmes, voilà, ça, c'est sûr à 100%. Hein, c'est sûr à 100%. Et il n'y a pas aussi, si vous consommez, disons, un produit traité à l'huile de nîmes, vous pouvez le consommer pratiquement tout de suite. Alors que si vous consommez un produit agricole qui a été traité avec les pesticides de synthèse, vous êtes obligé de respecter un délai de consommation de au moins de 7 à 10 jours. Ça dépend du produit.
Ce qui veut dire que ça n'a pas de conséquences néfastes sur la santé.
Pas du tout. Ça a été étudié, recherché, c'est publié. Donc, c'est un pesticide bio. C'est utilisé dans l'agriculture biologique. Donc, c'est homologué en tant que pesticide dans l'agriculture biologique. Donc ça veut dire que même en Europe, si vous pouvez acheter le poudre à base de nîmes, et c'est homologué pour la culture biologique.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Donc c'est le même système qu'on essaye de suivre, c'est essayer de produire les ennemis naturels pour que les gens sans trop de connaissances, avec un minimum de connaissances quand même, puissent les produire et faire profiter de ça aux populations. Il faut donc trouver un système pour pouvoir produire ces parasites en grande masse et pouvoir les lâcher. Et ça, il faut le faire avec les communautés, les paysans ou bien les communautés, par exemple, de femmes qui peuvent s'engager dans la production des ennemis naturels ou les jeunes sans emploi pour essayer de voir si ça marche au niveau déjà économique. On sait qu'au niveau de biologie et d'écologie, ça va marcher, mais il faut que quelqu'un puisse gagner de l'argent pour ajouter la valeur à ces ennemis naturels pour pouvoir les vendre, si on veut, les commercialiser, mais à échelle de communauté. On ne parle pas de grande commercialisation avec des grandes usines, tout ça. Donc, comme je dis, c'est aussi une filière de production d'agents de lutte biologique de proximité.
C'était Manuel Tamo, chercheur à l'ITA, l'Institut international d'agriculture tropicale à Cotonou, au Bénin. Malheureusement, la lutte contre les ravageurs en vue de garantir la sécurité alimentaire est un chapitre souvent oublié dans les programmes de gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Au micro, Kossivitiasso. Restez à l'écoute de la Deutsche Welle.